France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et une table ronde ce matin sur une jeune femme de 80 ans, toujours habillée en noir et jaune. Elle fait rêver aussi bien les jeunes que les habitués. Bon anniversaire à la série noire, la mythique collection des éditions Gallimard. Alors pour souffler les bougies, Léa, on a réuni... Quelle table, une très belle
et
table.
Quelle table, Stéphanie Delestrée d'abord, directrice de la série noire. Il y a eu que 5 directeurs en 80 ans. Vous êtes fidèle, hein. Enfin, on vous vire pas, vous êtes bon, je sais pas, et vous êtes la première femme à la diriger cette série noire. Bonjour et bienvenue à vous, Arnaud Vivian, critique littéraire à la revue Regard, intervenant du Masque et la Plume sur France Inter et grand lecteur de polar. Et puis Caryl Ferré, écrivain, vos livres se vendent à des dizaines de milliers d'exemplaires, parfois des centaines de milliers d'exemplaires. Le dernier en date, Grinda Drap, paru il y a 3 semaines dans la série noire.
Donc, bienvenue.
Bienvenue à vous également.
La cultissime série noire a donc 80 balais. Cette collection de Gallimard dédiée aux romans policiers a été fondée en septembre 1945, dans l'immédiate après-guerre, par l'éditeur Marcel Duhamel. En 80 ans, plus de 3000 titres ont paru avec la même couverture noire et jaune. Des centaines d'auteurs y ont été publiés, de Raymond Chandler à Caryl Ferré, en passant par Jean-Patrick Manchette. Des dizaines de films en ont été tirés de ces livres. La série noire au cinéma est d'ailleurs au cœur d'une exposition à la Galerie Gallimard à Paris. Alors Stéphanie Delestrée, pour commencer, quand Antoine Gallimard vous propose de diriger la série noire il y a 8 ans, avez-vous conscience que ce n'est pas une simple collection, mais une institution qu'il vous propose de diriger ?
Alors oui, j'en ai d'autant plus conscience que j'ai passé 6 ans de ma vie à faire une thèse sur le roman noir contemporain et j'ai donc passé beaucoup de temps à lire et relire les romans du fond de la collection et des années 45 à 50, 55.
Mmh. Et vous le prenez comment quand il vous dit tu vas diriger la série noire ?
En fait, je suis pas sûre d'avoir complètement pris la mesure à ce moment-là, parce que par ailleurs, j'ai mené plein de projets très différents au cours de ma carrière professionnelle, et notamment en rencontrant tout un tas d'auteurs qui sont les auteurs de la série noire. Donc je connaissais Caryl depuis assez longtemps, je connaissais Elsa Marpeau, Antoine Chénas, qui sont des auteurs importants, des auteurs français, pardon, importants de la collection. Et donc, finalement, je me sentais quand même un peu chez moi déjà. C'est un peu prétentieux sûrement de dire ça, mais je me sentais déjà un peu à la maison. En tout cas, ça m'était assez familier. Voilà. Et puis après, oui, il y a un petit temps, un peu plus tard, où on se dit, ah non, oui, mais c'est vraiment la série noire, et c'est la première femme à diriger la série noire. Il y a eu 4 directeurs
avant. Et là, ça pèse lourd, là.
Là, ça pèse un petit peu plus lourd. Du coup, on réfléchit moins, et puis on se relève les manches, et on y va, quoi.
Et on y va. Vous dites, Caryl Ferré, que la série noire vous a toujours fait rêver. Quand vous étiez jeune auteur, vous rêviez d'y entrer. Vous allez rentrer au début des années 2000. Vous arrivez avec votre roman au titre délicieux. Plutôt crevé. C'est une consécration à ce moment-là, quand vous êtes publié pour la première fois dans cette série-là ?
Non, pas vraiment, parce que en fait, moi j'ai connu 3 directeurs de la série noire sur 5, donc j'ai l'impression d'être un jeune auteur, mais en fait je suis un vieux maintenant.
Oui, parce que vous ne les faites pas.
Ouais, vous êtes gentil, mais non, plutôt crevé. En fait, Patrick Renard à l'époque voulait la suite d'un autre livre qui s'appelait Aka, et donc il m'a dit, ouais, non, mais je prends celui-là, mais en fait, ce que je veux, c'est la suite. Donc quand il est sorti, tout le monde s'en foutait, en fait.
Donc non, il n'y avait pas quelque chose qui palpitait à avoir.
Pour la... moi, si, hein,
ah, bah voilà, pour
hein.
Vous, bah, pour moi, d'être si, avec la couverture jaune et noire, tout ça.
Oui, mais pour ce livre-là, même l'attaché de presse, je ne connaissais pas son nom. Hein, donc, je n'avais pas été extrêmement soutenu sur celui-là. Donc, il a fallu ramer, encore une fois.
Arnaud Vivian, vous êtes de votre côté un grand lecteur de polar, fan de la série noire, et notamment de Jean-Patrick Manchette, dont on va parler dans quelques instants. Vous aviez signé en 1995 pour Libération un grand papier sur les 50 ans de la série noire.
Donc, c'est gentil de me le rappeler.
C'était il y a 30 ans, donc.
Oui.
Pour quelqu'un qui n'est pas familier.
Très jeune, hein.
Très jeune, très jeune. Pour quelqu'un, vous l'êtes resté vous aussi, qui n'est pas familier de l'univers du polar. Qu'est-ce qui fait que la série noire est la série noire ? C'est quoi la singularité de cette collection par rapport à d'autres collections de polar ?
Ben, c'est dur. Je veux dire, parce qu'en fait, vous voyez, il y a l'autre grande collection, c'est le masque, hein, avec son logo, le masque et la plume, vous le savez. La collection Le Masque, c'est le polar anglais, c'est le Who Done It, c'est le qui l'a fait.
Agatha Christie.
Voilà, c'est le roman à intrigue. La série noire, c'est le roman hard boil, le roman dur à cuire, c'est comme ça qu'on le traduit en général, qui parle des bas-fonds, on va dire, de la société, notamment américaine, puisque le genre est nettement américain, même s'il va avoir une déclinaison française très vite, puisque Boris Vian, quand il écrit « J'irai cracher sur vos tombes », il écrit une série noire, en l'occurrence, sous un faux nom américain, Vernon Sullivan. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, là, il y a vraiment... Mais donc, ça parle avant tout d'un côté, critique d'une société dure. Voilà, implacable.
Donc il y a quelque chose de politique, quelque chose de social.
Ah, immédiatement, oui, immédiatement, c'est le vecteur d'une contestation politique et sociale. C'est une manière de raconter l'envers des choses, le contraire de ce que raconte justement la presse et l'information. Mmh. C'est là soudainement où le romancier arrive en disant attendez, le réel que vous nous racontez dans les médias, moi je vais vous montrer comment il est un peu falsifié.
On va y revenir, mais remontons d'abord dans le temps. La collection née à l'été 45, dans l'effervescence d'un Paris tout juste libéré. Derrière cette collection, il y a un homme qui s'appelle Marcel Duhamel, personnage haut en couleur, noceur, dandy, traducteur et éditeur de génie. C'est lui qui persuade, qui convainc Gaston Gallimard de le laisser publier des romans policiers américains qu'il va traduire. Jacques Prévert, et c'est chic, trouve le titre. Série noire, c'est Jacques Prévert qui trouve le titre. L'identité graphique de ses couvertures jaune et noir se met rapidement en place. Il y avait déjà en France à ce moment là, des collections comme Le Masque, des collections de polar. Mais qu'est-ce qui va changer, Marcel Duhamel ? Qu'est-ce qu'il invente à ce moment-là, en 1945, à la sortie de la guerre ?
À ce moment-là, il invente un genre, vraiment. Alors, en effet, le titre est trouvé par Jacques Prévert. La maquette est faite par Germaine Gibard, à contre-pied de ce qui se fait à l'époque, c'est-à-dire souvent des couvertures très illustrées, très criardes, avec des couleurs criardes. Là, on le dit souvent, c'est un faire-part de décès. C'est une couverture noire avec juste le titre en blanc et puis un liseré, c'est très sobre. Mmh. Et puis surtout, Marcel Duhamel réunit là des auteurs américains qui ont déjà été pour certains publiés un peu plus tôt, mais de manière beaucoup plus systématique, surtout à partir de 48, il publie vraiment tous ces auteurs américains hardboiled dont vient de parler Arnaud.
Oui, et il les publie parfois dans des versions tronquées, hein.
Alors, il y a en effet à ce moment-là quand même un certain nombre de restrictions de papier. On est juste après la guerre, donc il y a ça d'une part. Il y a la volonté d'avoir une collection très populaire et accessible au plus grand nombre, et donc un format contraint de manière à avoir un prix fixe. Et voilà. Et en effet,
on taille dans les textes parfois.
Oui, on taille dans les textes, mais il faut avoir en tête quand même que à cette époque-là, la traduction n'est pas aussi établie et réglementée que maintenant, et on n'a pas un rapport non plus à la traduction aussi,
rigoureux.
Ouais. Oui, voilà,
Arnaud.
Dans cet article auquel vous faisiez allusion il y a 30 ans, j'avais eu beaucoup d'ennuis ensuite après la publication, parce que je racontais ça au niveau des traductions, et Michel Vian, qui était évidemment la veuve de Boris Vian, mais qui était aussi principalement la maîtresse de Jean-Paul Sartre, avait piqué une colère en disant comment peut-on contester nos traductions. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que à ce moment-là, l'idée de la littérature n'est pas la même. On est quand même dans une sous-littérature, donc qui réclame aussi, entre guillemets, une sous-traduction, parce que tout le monde est sous-payé. Il faut voir quand même que... Et oui, bien sûr,
bien sûr.
C'est que là, si vous voulez, c'est intéressant avec la série noire, et c'est que c'est une littérature de travailleurs pour les travailleurs. C'est le jour de la fête du travail, ça tombe bien, mais c'est exactement ça. Ce sont des gens qui sont des écrivains qui travaillent au sens, vraiment, ils sont à la mine. Hein. Il faut produire du feuillet pour pour vivre. Hein. Donc ça compte, ça engendre d'ailleurs un genre en soi, des phrases courtes, hein, pas d'explications psychologiques, hein, uniquement de l'action, du dialogue, etc. Parce que en fait, ça va plus vite à produire et à écrire.
Vous vous reconnaissez dans le portrait qu'il fait
Non, plus du tout maintenant,
c'est
en fait.
C'est fini,
oui, bien sûr.
Déjà, c'est passé en grand format, on n'est plus d'où la même époque.
Mais au début, c'était une sous-littérature, quoi. Il y avait quelque chose, on se bouchait le nez un petit peu.
Oui, mais enfin, il y a des chefs-d'œuvre quand même, hein. Enfin, et en littérature blanche, il y a des trucs, on se bouche le nez aussi, hein.
Ouais, vous avez raison. Et d'ailleurs, vous avez raison de faire le comparatif avec la blanche, parce que c'est vrai que pendant longtemps, chez Gallimard notamment, il y avait la blanche, c'était chic de publier la blanche, et puis il y avait le...
Maintenant, c'est l'inverse.
Et maintenant, c'est ben voilà, maintenant c'est la noire.
Il y a des mots célèbres de Duhamel qui définissent l'esprit de la série noire. Je vais les citer parce que c'est exceptionnel. Que le lecteur non prévenu se méfie, ces volumes ne peuvent être mis entre toutes les mains. L'immoralité y côtoie les beaux sentiments. L'esprit en est rarement conformiste. Les policiers sont parfois aussi corrompus que les malfaiteurs. Le détective sympathique ne résout pas toujours le problème. Et parfois, il n'y a ni problème, ni même de détective. Mais alors reste l'action, l'angoisse, la violence, les tabassages et les massacres. Et puis il avait aussi cette phrase, notre but est louable, vous empêchez de dormir. C'est du génie quand même, non, pour définir Arnaud, l'esprit d'une collection.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que les intellectuels de Malraux à Jean-Paul Sartre, qui était un grand consommateur de séries noires, qui disait, ça me rince le cerveau, Sartre. Voilà, c'est comme ça qu'il utilisait la série noire, ont tout de suite intellectualisé le phénomène. On fait des grandes phrases, hein, justement. Il y en a une célèbre de Malraux. Et donc, je m'en souviens plus.
Ah oui, c'est voilà. Ça, je vous regarde avec... J'ai bien vu que vous ne l'aviez pas.
Il est 8h30 du matin et je l'ai oublié. Mais enfin, elle existe. Je sais qu'il est question de tragédie. Enfin, c'est l'entrée de la tragédie. Voilà, oui, ça se trouve très facilement. Malraux, série noire, enfin, polar, ça se trouve. Et donc, voilà, donc c'est très vite, il y a une intellectualisation, on voit qu'il y a un phénomène, et qui est un phénomène qui est tout simplement l'apparition d'une littérature très spéciale à côté en face du roman à l'eau de rose, avec Barbara Cartland qui va publier plus de 100 romans, hein, qui est la grande romancière du roman à l'eau de rose. Vous avez la série noire qui est juste le contraire. Donc on est dans la littérature de genre, c'est l'apparition de la littérature de genre.
Et commercial, point d'interrogation. Industriel, point d'interrogation.
Industriel, non, parce que, enfin non, oui et non, comme beaucoup de comme beaucoup de collections populaires de l'époque, c'est-à-dire que et c'est toujours le cas aujourd'hui. Commercial, oui, certainement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, alors commerciale, parce qu'il y a une volonté, en effet, de mettre entre toutes les mains, en tout cas les mains d'un plus grand nombre et des travailleurs, vraiment une littérature très en prise avec la réalité de ces gens.
Ouais. Ça s'est toujours bien vendu, la série noire, où il y a eu des périodes où ça se vendait plus. Comment ça se passe, le rapport aux ventes de cette série, de cette collection?
Mais c'est une collection qui va très bien depuis toujours. Après, c'est, voilà, il y a les nuances avec la difficulté du secteur du livre en général. Donc, et le secteur du livre, il va plus ou moins bien. Mais on n'est pas plus, enfin, d'ailleurs, le polar va plutôt mieux que, d'autres secteurs.
Donc il y a beaucoup plus de collections aussi.
Il y a beaucoup plus de collections, mais la collection reste une collection de premier plan, quoi qu'il arrive. Oui.
Caryl Ferré, c'est politique, le roman noir. Vous disiez en 2023 à l'Obs, le polar sans politique ne m'intéresse pas, ça ne raconte rien du monde.
Oui, après, il en faut pour tous les goûts. Hein.
Oui, mais le vôtre.
Ben oui, pour moi, tout est politique. La relation qu'on a aux femmes, qu'on a au monde, qu'on a à nos enfants, enfin, à tout. Bon, il se trouve que même moi, mes romans se situent plutôt à l'étranger, parce que j'aime bien déjà la géopolitique, mais aussi pour comprendre le monde, faut comprendre le présent, le passé. Bon, j'aime bien brasser un peu tout ça pour avoir un prisme qui est assez précis, en tout cas sur un pays particulier que je décline.
Un mot sur votre dernier livre. Là, il y a effectivement, c'est politique et il y a une dimension écologique.
Oui, parce que l'état des océans est presque pire que celui sur Terre. Enfin, le problème des océans, c'est qu'on voit pas ce qu'on y fait. Et donc, vous le savez, hein, enfin, tous les bateaux qui raclent les fonds marins, les bateaux, pas seulement chinois, qui vont pêcher en eau territoriale et qui bousillent la pêche de tous les petits pêcheurs, qui vont se retrouver à migrer, qui vont faire le plaisir de Retailleau et compagnie. Il y a tout un cycle qui va comme ça, et puis malheureusement les cétacés, eux, comme ils sont en haut de la chaîne alimentaire, c'est eux qui sont les plus pollués par toutes les saloperies qu'on...
Et ça se passe aux îles Féroé, il y a un cadavre au milieu,
oui,
couvert de plaies.
Oui, parce qu'il faut bien trouver un prétexte un petit peu à tout ça.
Oui, mais quand même.
Pour nous attraper.
Il y a un mort.
Alors, Daniel, attrapé par les livres de Caryl Ferré au Standard d'Inter, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je peux parler ?
Mais oui, évidemment.
Je suis une, entre guillemets, admiratrice de Caryl Ferré, que j'ai découvert il y a quelques années grâce à l'aide qui se passait à Norilsk. Et j'ai fait plein de découvertes sur cette ville que je connaissais pas du tout. Et ensuite, j'ai lu Mapuche et puis plein d'autres sur l'Afrique du Sud. Et ce que j'aime, c'est que ces polars sont intégrés à la vie du pays, à la politique, à l'écologie, à l'histoire, etc. Voilà. Mmh. Donc, je voulais dire mon admiration.
Bah, eh bien, il va vous répondre des polars qui permettent d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Voilà ce qui fonde l'admiration de Daniel, Caryl Ferré.
C'est gentil déjà.
Oui.
Mais en fait, ce qui est bien quand on sort d'un livre, c'est qu'on sorte moins bête qu'en y rentrant. C'est un peu l'inverse de la télé. La télé, on en sort plutôt un peu plus débile, quoi. En majorité, on est d'accord. Pas la radio, hein. La radio, c'est mieux.
Hein, comme vous voulez.
Mais dans les romans, en fait,
non,
si on peut.
Pas comme vous voulez, non.
Comme vous avez tous les droits.
Non, mais bon, le but d'un roman aussi, c'est pas simplement de distraire. Enfin, l'entertainment à l'américaine, moi, ça m'intéresse pas trop. Donc, effectivement, moi, je prends pas les lecteurs pour des débiles. Donc, il y a plein de choses dont je parle. Et je sais que le FMI, j'ai pas besoin de dire ce que c'est, etc. Et donc, du coup, il y a plein de choses que moi, j'ai découvert lors de mes voyages, que j'ai envie de partager, parce que j'étais moi-même surpris par certains aspects divers et variés, et de le mettre dans un roman. On peut tout mettre dans un roman noir, en fait, ce qui n'est pas toujours le cas des autres genres, on va dire.
Dans les années 70, il y a des écrivains qui vont venir renouveler le genre en profondeur, et on pense évidemment à Jean-Patrick Manchette, oui. Arnaud Vivian. Qu'est-ce que change Manchette ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Vous dites que c'est un émule de Flaubert,
Oui. Mais
un émule qui écrit des romans noirs.
Oui, c'est vraiment, c'est une idée, comment dire, que seul Jean-Patrick Manchette pouvait avoir. C'est Flaubert, il est là, hein, et il décide d'écrire, plutôt que Madame Bovary, il décide d'écrire du polar. Comment Flaubert écrirait du polar ? C'est ça la question que se pose et que résout Jean-Patrick Manchette, c'est-à-dire qu'il va écrire du polar, du vrai polar, avec des meurtres, etc. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est-à-dire qu'il respecte le genre et les canons du genre, mais en écrivant comme Flaubert qui l'a étudié. Hein, je veux dire. Il a lu Flaubert, il a lu toute la correspondance, il a la phrase de Flaubert en lui, et ils l'ont fait du roman policier. C'est un... Donc, si vous voulez, c'est pareil, hein, dans le polar, au bout d'un moment, il y a des maîtres.
Ouais.
Hein, il y a des maîtres, c'est comme aux échecs, en fait. Hein, il y a des maîtres, des grands maîtres. Eh bien, évidemment, Jean-Patrick Manchette, c'est le grand maître du, ce qu'on a appelé le néo-polar, parce qu'il fait une révolution. Mais en fait, cette révolution, elle est plutôt interne, encore une fois. C'est de dire, je ramène cette sous-littérature dans la grande littérature, pas en imitant Flaubert, parce que c'est pas de l'imitation, c'est pas du pastiche, en se prenant pour Flaubert, c'est tout à fait différent.
Nicolas Demorand est un grand lecteur de séries noires et on pourrait vous interviewer. Pourquoi vous aimez tant la série noire ? Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans la série noire ? Dans Manchette, que vous avez absolument lu.
Manchette, j'adore, évidemment.
Vivian, pourquoi ?
Moi, je lis Gendron en ce moment, Sébastien Gendron, Chevreuil pour le premier volume de la trilogie, Python pour le deuxième volume de la trilogie. Et
qu'est-ce que vous y trouvez ?
J'y trouve une inventivité et une liberté, au fond, qu'on ne trouve peut-être pas nécessairement dans le roman dit classique. Python de Sébastien Gendron, on sent qu'il ne s'interdit rien, mais qu'il ne fait pas n'importe quoi non plus. Et il y a une tension entre cette liberté extrême et une forme de retenue qui, moi, me semble parfois de l'ordre du miracle. Hein, quand on bon, et puis il y a les Américains publiés dans d'autres maisons, il y a Elroy, etc. Mais le polar, pour moi, on sent la palpitation, on sent que ça bascule, que son histoire s'écrit volume par volume et qu'elle peut pivoter à n'importe quel moment. Et ça, c'est passionnant, je trouve, quand on est un lecteur.
Et qu'est-ce qu'elle dit de nous, la série noire? Qu'est-ce qu'elle dit de l'âme humaine? Qu'est-ce qu'elle dit du bien et du mal? Qu'est-ce qu'elle dit de tout ça, des nuances? Qu'est-ce que ça raconte? Je pose la question pour ceux qui seraient néophytes, qui nous écouteraient ce matin et qui sont pas, qui préfèrent la blanche et qui auraient peut-être envie de rentrer dans la série noire, mais qui ont peut-être un peu peur.
Ouais, non, en fait, entre la noire et la blanche, hein, souvent, comme l'âme humaine, hein, il n'y a que des zones grises. Hein. Peut-être la différence, c'est que ça raconte le monde, en général, quoi. Que ça se passe à l'étranger, en France, ou dans l'intimité, c'est plutôt un rapport au monde, et bon, qui est souvent un peu violent, parce que le rapport au monde est plutôt violent, enfin, malheureusement. Mais donc, enfin, moi, je trouve que ça raconte les autres.
Ça raconte les autres. Arnaud Vivian ?
Moi, je trouve que le thème profond du polar, parce qu'en fait, ça arrive avec la société capitaliste, en fait, hein, évidemment. Hein,
sa manchette l'explore magnifiquement.
Évidemment, parce qu'il y a du taylorisme dans l'écriture même du polar. Hein, c'est, encore une fois, le mec est à l'usine, je veux dire, l'écrivain est à l'usine, et donc il travaille. Et donc, ça raconte ce rapport de force entre le système et l'individu qui est soit écrasé, soit l'individu qui essaye d'écraser le système. Hein. Manchette parle à la fois du terrorisme, hein, qu'il dénonce d'ailleurs dans Nada. Donc il y a cette violence qui est systémique finalement, qui est racontée à travers le polar d'une manière froide et distante. Hein. C'est ça aussi qui est important, c'est que l'écrivain est plutôt absent de son livre, contrairement à ce qui se fait dans la littérature classique où le moi est important, ouais. Parce que le moi c'est le style, quoi. Le style c'est l'homme. Mmh. Mais là justement non, il faut essayer de s'abstraire de ça, quoi.
Question Solveig sur l'appli d'Inter, quel est votre polar favori de la série noire? Dur, Stéphanie Delestrée. Eh oui.
Eh oui.
Là,
eh
ça, oui. Ça c'est pas facile ça.
Ouais.
T'as qu'à dire le mien.
Voilà. Karine Ferré, il est obligé.
Oui, oui, je vais dire ça. L'inverse de ce qu'on vient de dire.
Non,
non, non, pas du tout. Je vais dire ça. Je vais dire en effet, je vais dire celui de Karine, puisqu'il allait à côté de moi et que
ouais, elle a pas le choix, en
sortant, il va être horrible.
Et vous, votre polar préféré en dehors de vous?
Non, non, bah,
vous voulez vous autociter?
Non. Non, mais il y en a tellement.
Mais c'est très difficile.
Quoi.
Moi, j'aime beaucoup les classiques de la série noire que vous êtes en train de republier dans de nouvelles traductions le plus souvent avec de courtes préfaces ou de courtes postfaces. Moi, j'ai oublié les titres, hein, parce que c'est l'un des plaisirs aussi de lire beaucoup de polar, mais de se retrouver face à des écritures des années 45-50 et des trames romanesques, mais absolument impensables aujourd'hui. Ça, c'est un bonheur. Un dépaysement temporel que j'adore.
Arnaud Vivian, votre polar préféré et un conseil pour rentrer dans le polar. Le premier livre à lire quand on n'a jamais lu une série noire.
Ah ben le premier livre, il faut commencer par un Chandler ou un d'Achille Hamet. Hein. La Moisson Rouge, par exemple, est très très bonne entrée dans l'univers de La Dame du Lac de Chandler. Si vous voulez, personne n'y comprend rien à cette histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que on le lit, en fait, on se fait embarquer. L'histoire est incompréhensible. Tout le monde le dit. Hein. Manchette dit, on comprend rien à cette histoire. Elle n'a ni queue ni tête. Et pourtant, on est happé parce que c'est un immense styliste, Chandler. Donc ça, c'est bien pour entrer. C'était quoi?
Votre préféré de tous les temps.
J'ai une tendresse infinie pour un livre d'un écrivain qu'on a un peu oublié, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait, c'était son surnom, Jean Vautrin, son pseudonyme, Jean Vautrin, qui a écrit des séries noires dans les années 80, à ce moment, justement, manchétien du néo-polar, etc. Lui, il arrive, donc il écrit Billy the Kick. Billy the Kick, il y a un groupe de Rennes qui va s'appeler Billy the Kick ensuite. Billy the Kick, c'est une petite fille, en fait, il réécrit Zazie dans le métro en polar. C'est ça l'idée. Il réécrit Queneau, c'est sa contrainte, et c'est juste magnifique.
Et Eric nous rappelle une citation d'André Malraux que personne ne connaissait
grâce
autour de cette table. Le roman policier est le grand art populaire du XXe siècle.
C'est pas celle-là.
Bah on l'apprend, elle est pas mal. Le roman policier, le grand art populaire du XXe siècle. Et puis il y a Bérangère dans les Pyrénées-Atlantiques qui nous écrit « Elsa Triolet aussi était très fan de la série noire qu'elle cachait dans son placard à somnifères. Elle en possédait des centaines et c'était de la littérature qui l'aidait à s'endormir, à voir dans sa maison à Saint-Arnoult en Yvelines. » Voilà, je le pose là.
Oui, c'est vrai, c'est parce qu'il y a ce truc de l'addiction, c'est pareil. Sartre, il est caché derrière son canapé. Parce que en fait, c'est de l'addiction, c'est-à-dire ils en ont beaucoup, c'est des centaines de polars. C'est ça l'idée. Hein.
Eh bien, merci à tous les trois, Stéphanie Delestrée, Arnaud Vivian, Caryl Ferré, et bon anniversaire à la série noire.